RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h05 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi et vous avez raison de nous rejoindre avec Pierre-Ambroise Boss, David Douillet, Walid Acherchour, Simon Dutin. Depuis 9h ce matin, on vous régale à retrouver en podcast aussi. Vous pouvez notamment retrouver notre débat sur l'OM dès maintenant sur l'appli RMC. Dans 30 minutes, la punchline GG est signée Carlos Alcaraz ce matin. Et puis dans une heure, on reparlera de foot avec Kylian Mbappé. Est-ce qu'il peut devenir encore plus fort à Madrid puisqu'il va faire ses débuts ce soir en Liga avec le Real? Sans oublier, à 11h45, un moment très attendu. Les GG contre-attaquent. Les GG qui prennent les commandes de l'émission. Elles vous proposent un débat. Vous pouvez voter sur le compte X des grandes gueules du sport dès maintenant pour votre débat préféré. Et le grand gagnant lancera le débat. Ça sera donc à 11h45. C'est maintenant le tour de vos propositions pour donner envie de voter pour vous. Simon Dutin, quelle est ta proposition du jour?
Alors, moi j'ai envie de vous parler du Tour de France Femmes qui va connaître son dénouement, son épilogue cet après-midi. Les coureuses arrivent au sommet de l'Alpe d'Huez, ça va être le feu parce que montée mythique, comme vous le savez. Ça fait quoi? C'est la troisième édition d'affilée où on a un petit peu relancé cette course, quoi, qui était un peu en désuétude. Et je trouve que c'est le feu parce que au-delà du fait qu'on ait des coureuses françaises qui peuvent intéresser le grand public, il y a des stars qui se dégagent, la hollandaise Vollering, la maillot jaune polonaise qui pourrait gagner. Il y a une rivalité qui se construit en dehors aussi de la route. Tous les ingrédients.
Elle fait pas de débat avant le débat.
Tous les ingrédients pour que ça marche. Et moi je suis convaincu et j'ai moi-même mangé mon chapeau. Donc je voulais demander à mes camarades si eux aussi ils sont convaincus par ce Tour de France.
Le Tour de France femme vous a-t-il convaincu? Allez voter pour le débat proposé par Simon Dutin. Walid, quel est ton débat?
Moi c'est Gaël Monfils peut-il jouer jusqu'à 40 ans?
D'accord.
Avec sa victoire contre Alcaraz.
Il en a 37
3, aujourd'hui. Numéro 3 mondial.
Voilà, au moins c'est concis. Non mais c'est très bien. T'as respecté la règle, magnifique. David Douillet.
Moi je vais faire du réchauffé parce que je l'ai proposé hier, j'ai pris une bâche. mais je tiens bon et j'ai envie.
Et pourquoi
j'ai
pas
envie, j'ai vraiment envie de parler de la baisse des droits télé, de la L1, après une négociation extrêmement laborieuse. Ces droits sont en baisse, donc ça veut dire qu'il y aura évidemment moins d'argent de redistribuer sur l'ensemble des clubs, dont certains vont voir une baisse de plus de 60% de ces droits. Voilà, est-ce que la L1 est en train de scier la branche sur laquelle elle est en ayant voulu trop et en obtenant pas assez du tout, et quelles vont être les répercussions de cette affaire-là?
Ok, et puis Pierre-Ambroise, vas-y pour c'est toi la première, hein.
Ouais,
contre-attaque, écoute, hein. Vas-y, faut être convaincant, hein.
Faut être convaincant, non mais
alors, sauf si tu veux pas travailler, ça c'est la technique Simon Dutin. Tu choisis un débat moyen.
Hier non, j'ai perdu parce que il n'y a pas le mot argent dans mon intitulé. Comme par hasard, les gens veulent entendre parler d'argent.
Simon, c'est le seul à ne pas voter pour lui sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Comme ça, au jour 45, il est tranquille. Vas-y, on t'écoute.
Moi, j'ai justement peur qu'on parle un peu trop d'argent et de foot dans notre monde actuel. Et voilà, je me demandais si les JO de Paris n'ont pas réveillé un petit peu la flamme des sports mineurs. Et est-ce qu'on devrait les avoir un peu plus sur nos écrans à partir de maintenant? Ça ferait un peu rêver nos gosses et les parents arrêteraient les projets Mbappé un petit peu plus, quoi. Pourtant, j'aime beaucoup. Hein.
Pas mal.
J'adore. Hein, bonne
Pierre en bois.
Il y a des très très bons débats. Allez voter, évidemment. C'est vous qui choisissez. Compte Twitter, compte X maintenant, on dit comme ça, des grandes gueules du sport. Les GG contre-attaque. Les propositions sont déjà en ligne. Et la réponse, ça sera à 11h45.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et oui, parce que vous le savez, cette semaine, c'est le retour des GG depuis les Jeux Olympiques. Ça mérite qu'on fasse le bilan de ces Jeux. On a parlé hier des grandes performances françaises du judo à Léon Marchand en passant par le volley. Mais on est obligé de se poser la question sur l'athlétisme. Une seule médaille pour un bilan médiocre. Est-ce que c'est le plus gros flop de ces Jeux Olympiques? Dans le coin droit, nous avons la team. Oui, le plus gros flop représenté par David Douillet, Simon Dutin et Pierre-Ambroise Boss. Dans le coin gauche, tu es seul, Walid Acherchour. La team, non, c'est pas le plus gros flop. Peut-être que je viendrai t'aider, mais je pense que t'as pas besoin d'aide. T'es très bien, seul contre tous. C'est une position
mais c'est notre flop, non? Ah ouais. Ou est-ce que c'est le plus gros flop?
On va en parler dans un instant. D'abord, avant de lancer les hostilités, petit rappel quand même de ce que fut l'athlète français au JO. C'était ça, avec les commentaires d'Aurélien Tirsain et notamment de Pierre-Ambroise Boss.
Et l'immense déception, le troisième échec de Thibaut Collet à 5,75. Ça ne passera pas en finale. C'était un des outsiders pour la médaille d'argent, puisque la médaille d'or, c'est pour Armand Duplantis. A priori, trois fois en retombant derrière la barre, il l'accroche. La barre reste un peu sur les taquets et elle tombe. Il est un petit peu en retrait, Sacha Zoya, mais il va faire son effort. Il est énorme sur la fin de course. Il est aux côtés de Simonelli. Allez, Sacha Zoya, il tape la 7ème et la 8ème. Ah, il va falloir s'arracher. Ça va jouer. Ça va être compliqué pour Sacha Zoya. Techniquement, encore une fois, il a tapé 2-3 haies. Et il était bien au milieu de la course. Et à la fin, il s'est crispé, Sacha. On arrive dans la dernière ligne droite. Il est bien placé, Gabriel Tual. Ça, c'est une certitude. Il est toujours deuxième derrière Wagnoni. Mais Gabriel est dépassé par Marco Europa. Il va craquer. Parce qu'il y a Sejati, Bryce Hoppel. Il n'y aura pas de médaille encore pour l'équipe de France. On a envie de pleurer. Les Américaines partent très fort dans le cœur de la course. Il n'y a pas de faute pour l'instant de Sirena Sambamayela qui peut terminer très fort. Allez, Sirena, elle y est peut-être. Allez, ouais, elle y est peut-être. Ouais, dans les bras. Pour Sirena Sambamayela, on va arriver, on va peut-être avoir droit au bonheur, on va y avoir droit, on va pas finir à zéro. Sirena Sambamayela est vice-championne olympique.
Il y avait Renaud Longuièvre, évidemment, aussi dans l'équipe qui suivait l'athlète pour RMC dans ces Jeux Olympiques, vous l'avez entendu. Sirena Sambamayela, donc ça se termine quand même par une médaille olympique. La seule, comme à Tokyo, une seule médaille olympique. Ça évite le zéro pointé, hein, qui n'est arrivé que deux fois dans l'histoire de l'athlétisme. À Berlin en 36, à Sydney en 2000, mais loin du record de Rio en 2016, où il y avait eu 6 médailles pour l'athlète français. Pour Romain Barras, directeur de la haute performance à la Fédération d'athlétisme, la barre était peut-être trop haute pour les athlètes français.
Oui, c'est un bilan décevant. Néanmoins, on voit que pour aller chercher une médaille sur ces Jeux Olympiques qui ont un niveau extraordinaire, il fallait souvent un record de France. Parfois même un record d'Europe ne suffisait pas pour aller chercher une médaille. On avait des athlètes qui étaient, on savait, capables d'aller chercher des médailles. Ça se jouait entre la troisième place et la cinquième, sixième place. Voilà, pour en attester, un niveau qui s'est densifié depuis quelques temps. Je crois qu'on avait fait 26 points à Tokyo, on en fait 38 aujourd'hui, donc on a plus de finalistes. On a plus de la tête cassée, ça suffit pas encore parce que le niveau était vraiment très très bon.
Voilà, Romain Barras, donc c'était après ce bilan de l'athlétisme français. Est-ce que c'est le plus gros flop de ces Jeux? Vous a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et c'est le principe, c'est celui qui est à la dérive, on va dire. Il doit commencer.
À la traîne.
C'est quoi, Walid? Puisque là, c'est la dérive. Là. La team, non, c'est pas le plus gros flop. Et t'as 18% seulement. Donc le but du jeu, c'est que t'essayes de grappiller quelques pourcents. 82% pour la team Oui, représentée par Simon Dutin, David Douillet et Pierre-Ambroise Boss. Donc c'est toi qui commence, vas-y.
Oui, non, mais moi j'ai plus anglais sur mon flop, c'est-à-dire mon flop des JO côté français.
Par mais rapport, c'est pas l'athlétisme.
Voilà, par rapport aux attentes que j'avais en début de jeu, par rapport à ce que les spécialistes en disaient, puisque je suis pas spécialiste athlé, malheureusement. Et moi, mon gros flop, c'est le handball. Moi, c'est là où, en fait, je les attendais. Et par rapport à comment ça s'est terminé, c'est la grosse image négative pour moi des Jeux, avec Dikamem et Guillaume Gilles, notamment, sur le temps mort. On a été habitués à des très grosses médailles pour le handball français. Et la dernière de Karabatic, c'était un symbole aussi. Et de les voir s'effondrer comme ça en quart de finale contre l'Allemagne, moi, c'était pour moi mon plus gros flop. L'athlée, oui, bien évidemment que c'est une très grosse déception, qu'on les attendait. Mais moi, quand je demandais, on me disait une médaille, pas plus.
Oui, donc on les attendait pas tant que ça,
ouais, voilà. Donc en fait, moi, je me suis fait une raison sur l'athlée français. Et même dernièrement, ça, moi, je me suis habitué à, en tant que supporter de l'équipe de France, à voir une équipe de France souvent en deçà et du quota mondial.
Mais justement, t'avais l'espèce de rêve du home advantage, tu sais, le Stade de France, t'avais envie qu'il se passe quelque chose. Là, je vais parler sous le contrôle de notre spécialiste. On s'attendait pas à finir champion ou championne olympique du 100 mètres ou quoi. Mais il y a quand même des des déceptions. Heureusement qu'on se termine sur des bonnes notes. Tu vois, les filles qui finissent quatrième du 4x100, je veux dire, même si elles sont peut-être dégoûtées de pas être sur la boîte, ah, tu te dis, on a existé dans ces, tu vois,
qu'on bah, donc c'est pas un flop, alors.
Non, mais, si, ça reste un flop parce qu'on les a listés. Vous en avez fait dans la prod, la liste collée, c'est un flop. Robert Michon, c'est un flop. Dans les concours individuels,
on n'a pas de finaliste, certainement,
mais parce que moi, je les ai pris dans les concours individuels, on n'est jamais invité, on n'est pas en qualif, on passe même pas dans les finales. T'as les trois hurleurs, Bélocian, Mohamed Zoya, tu les attends au moins, t'en attends au moins un des trois en finale.
110 mètres, c'est vrai.
T'as envie de t'enflammer un tout petit peu. On en arrive à nous dire, et alors là c'est que Tual peut-être il va monter sur le podium, et de facto la déception elle est d'autant plus grande que l'espoir que t'as fait naître. Est-ce qu'on s'est pas un peu emballé? Et moi, je, encore une fois, je ne suis pas non plus spécialiste, mais c'est la Madeleine de Proust, quoi. Tu sais, les championnats du monde, les JO, t'adores ça, quoi, être devant ta télé, tu regardes, tiens, un lancer, un saut, une course, un relais, un machin. Et t'as envie, de temps en temps, ouais, de t'enflammer. Galfione en Atlanta, il est pas censé gagner le concours à la perche, tu vois. Bon, et il va te chercher un truc monstrueux. On attendait, voilà, je te dis pas 50 médailles, 15 médailles. On attendait que dans une discipline, tiens, pourquoi pas, il se passe quelque chose. Et on l'a pas eu. On l'a pas eu, heureusement. On a cette apothéose avec Samba Mayela, bon, championne olympique du, on en parlait hier, du 98 mètres haies, quoi. C'est quand même dommage. Mais ça reste absolument fantastique parce que t'as vraiment l'impression qu'elle va gagner. Mais au-delà de ça, et je pense que là, il faudra quand même faire instruire un petit peu les modes de sélection. Moi, je veux bien qu'on ait haussé le curseur de l'exigence dans l'athlé français, mais mettre des minima qui sont parfois inatteignables, et du coup, moi, j'ai l'impression dégoûté ou désespéré un petit peu les athlètes avant même les grands championnats. Je trouve que c'est pas la bonne solution. Je pense que la DTN, elle a fait fausse route. Elle a vu ses athlètes trop beaux. Et au-delà de ça, et là, je pense que c'est pas la responsabilité de la DTN. Il y a quelque chose à mettre en place, et la France doit peser de son poids là-dedans, dans la façon dont nos athlètes ont l'occasion de se mesurer chaque semaine ou chaque mois au tout meilleur. Et donc l'organisation de la ligue des meetings, tu vois, qui c'est un peu nébuleux, tu sais pas comment t'as le droit d'aller courir le 100 mètres de tel meeting, tu sais pas pourquoi t'es pas invité, tu sais pas pourquoi certains sont invités et pas toi. Et ça, je trouve que c'est pas normal que les athlètes, que nos athlètes n'aient pas l'occasion chaque semaine de se mesurer au tout meilleur.
Alors avant de te laisser la parole, Pierre-Ambroise, la dernière lame là pour assommer encore un peu plus Walid. On va laisser la parole à David qui est dans ta team aussi. C'est le plus gros flop pour toi aussi, David, pour les Français, hein, l'athlétisme.
Ouais, c'est, enfin le plus gros flop, oui, des Jeux de 2024, oui, mais pas des Jeux au sens large. L'athlète fait flop sur flop, et c'est ça. Moi, franchement, je suis ulcéré de cette affaire-là, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Là, on se réveille parce que Paris 2024, mais je vous rappelle qu'à Tokyo, on n'a qu'une seule médaille, ouais, avec Kevin Mayer. Ouais. Tu vois, ça date pas d'aujourd'hui. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a eu zéro médaille à Sydney, on a eu un soubresaut à 6 médailles plus tard dans les Jeux Olympiques qui ont suivi. À Rio, bon, la vraie question, c'est pourquoi l'athlète français n'arrive pas à décoller, quoi. Il y a un vrai problème. On a vu un décollage avec une ère où il y a une grosse remise en question, notamment à la tête de la DTN, avec un garçon qui venait d'un autre monde que l'athlétisme, qui était la lutte, avec Gany Yalouz, qui était DTN à l'époque. Il a réussi à... Pierre nous en dira peut-être un peu plus, à casser, des espèces de chapelles. Parce que l'athlète, c'est quelque chose de très complexe, hein. Vous avez les sprints, le demi-fond, le fond, les sauts, les lancers, les épreuves combinées, les marches sur piste, sur route, le cross-country, tout ce qui se passe en dehors du stade, le marathon, etc. C'est, en réalité, c'est une fédération avec plusieurs filiales, voilà. Et je vous assure que l'état d'esprit ou la culture d'un lanceur n'est pas du tout la même que celle d'un sprinteur ou d'un coureur demi-fond. C'est comme, ils font vraiment des sports différents. Donc, pour faire en sorte que dans cette même galaxie, on crée une émulation, on crée une envie de gagner, on crée une culture de la gagne, eh bien c'est très compliqué. Et Gany avait commencé à amorcer tout ça, et commencé à avoir des résultats surtout. Donc ça prouve que dans le monde de l'athlète, chez les athlètes, il y a du potentiel. Simplement, je pense que ce qui est mis en place autour, la cité, le tableau de bord de commande de ce paquebot-là, eh ben, il est mal fait, quoi. Il est pas encore très bien réglé. Voilà. Mmh. Et je pense qu'il y a des grandes décisions de fond à prendre dans ces disciplines-là, pour que on ait une vraie émulation, quoi. Parce que moi, j'ai entendu des trucs aux commentaires, et c'est d'ailleurs devenu un joke continuel avec mon copain Renaud Longuèvre. Il y a des athlètes qui se satisfont d'une 13e place, d'une 15e place, d'une 8e place, etc. Mais ça, c'est pas la culture du haut niveau. C'est pas du tout la culture du haut niveau. Et ça, si on n'apprend pas ça petit à des gosses qui veulent faire de la compétition dans l'athlète, c'est tout à fait noble. Et ben comment voulez-vous que ils trouvent un chemin en eux à travers ce qu'ils sont capables de faire, à travers leurs résultats pour aller chercher les meilleurs des meilleurs. Mmh. C'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Donc il y a vraiment une philosophie de fond à revoir et une philosophie organisationnelle à revoir dans cette discipline. Sinon on parlera toujours la même chose. Dans 20 ans, il y aura les GG fonds du sport et on dira toujours, voilà, le flop de l'athlétisme à ces derniers Jeux Olympiques. On n'en sortira jamais.
Ah, je veux pas voir l'état des GG du sport
dans
20 ans.
Du sport.
Pierre Ambroise, alors bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
Ouais,
je reviens quand même sur la question initiale, mais on va pouvoir parler, bien sûr, de est-ce qu'il faut une révolution dans l'athlétisme et notamment pour dans 4 ans à Los Angeles. Mais pour revenir sur la question, moi, quand je vous entends tous,
c'est Simon, pas une échelle de 4 ans, hein. C'est une échelle de 10 ans, 15 ans.
Mais quand je t'entends David, quand j'entends Simon, j'ai l'impression qu'en fait, il fallait pas trop en attendre de cet athlétisme-là. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire, forcément, c'est pas forcément le plus gros flop de ces Jeux Olympiques. Toi, t'en attendais beaucoup quand même, Pierre Ambroise? Toi qui les connaissais.
J'en attendais, plus. Il y a plusieurs choses. Il y a ce qui s'est passé pendant les Jeux. Il y a le problème de fond on pourra parler de ça, bien entendu. Hein. Mais on a vraiment l'impression que les athlètes français là, ont pris le bouillon. Et d'ailleurs, ça s'est retranscrit avec les premiers athlètes qui sont revenus au village et ont parlé aux autres en disant attention parce que. Le stade, l'ambiance est trop en fait, c'est trop pour nous. Alors que normalement, c'est censé être l'inverse, quoi. Ouais. Donc déjà, il y avait ce problème-là et rapidement, ils sont tombés dans une spirale négative. Alors aujourd'hui, on est obligé de faire le bilan. Malheureusement, c'est factuel. Il aurait dû avoir plus de médailles. Et je suis obligé de balancer des noms. Malheureusement, pourtant, je les kiffe. Hein, mais on a Thibaut Collet, la 5,95, c'était son record. La médaille d'argent, c'est 5,95. La médaille de bronze, c'est donc clairement, lui, il aurait pu. Ceux qui étaient médaillables, Yann Chossinan, au marteau. Voilà, son record lui permettait de faire une médaille minimum de bronze. Il y avait Willem Belossian. On parlait beaucoup de Sacha Zoya parce que c'était la hype du moment, mais c'est 13,07, c'est son record perso. Il aurait pu dans une meilleure année, voilà, il a eu beaucoup de pépins physiques, mais avec son record faire une médaille. Donc c'est vrai qu'à long terme, je vais pas tous les citer bien entendu, parce qu'il y en a d'autres.
Tual, hein, dont tu parlais beaucoup, tu imaginais qu'il pouvait avoir.
Tual, c'est un contre-exemple parce que lui, une 41,64, si je me souviens bien.
Parce que le niveau était trop élevé là.
Mais non, mais en fait, il fallait quasiment battre le record du monde pour être médaillé. Ouais. Donc
il y a Alice Fineau aussi
qui fait une 42,14 en finale. Il est à côté du mec qui gagne la course de bout en bout. C'est-à-dire qu'il a sur trois courses faire une 42, ça reste quand même exceptionnel. Donc on ne sait pas en plus ce qu'ils prennent devant. Ça va peut-être sortir plus tard. Mais il y a un Algérien, il est en procédure disciplinaire à l'heure actuelle. Donc le parquet, c'est au-delà du contrôle antidopage. Là, ils ont peut-être trouvé des trucs chez lui et compagnie. C'est une enquête judiciaire. Donc voilà.
Si tu bats tes records perso ou que tu les égales en grand championnat, t'as rien à te reprocher. T'as jamais fait mieux et ta meilleure performance, tu la délivres au jeu. Il y a rien à dire, mais il y a en effet trop peu de nos athlètes qui ont égalé ou dépassé leur record perso.
Ça fait partie du problème de ces JO. C'est pour l'athlète, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, un gros pourcentage d'athlètes qui n'ont pas vraiment été au niveau de leur saison. Et c'est peut-être ça le principal problème.
Excuse-moi, mais il faut qu'on se réveille. Tu viens de citer 4 ou 5 personnes. Je rappelle que l'athlète va distribuer de mémoire 150 médailles. Alors, 150 médailles.
C'est encore autre chose.
On passe à côté de...
On parle.
Oui, non, mais c'est encore. Moi, je te parle de l'état d'esprit. On vient de citer 5 personnes versus 150 possibilités d'obtenir des médailles. C'est improbable. Il faut vraiment se réveiller.
Bah, tu parlais de Tokyo, David. Mais à Tokyo, il y a quasiment personne qui a de médailles. Tu regardes l'Allemagne, il y a plein de sports. Je parle dans l'athlé. Les autres grands pays ont morflé aussi. Hein. Donc en l'occurrence, ce problème-là, pour moi, il réside dans les problèmes
Alors
financiers.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut
mettre de l'argent.
Il faut mettre plus d'argent, ça c'est clair. Pas forcément pour le premier au bilan, mais pour le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, comme l'ont fait Londres en fait, comme ont fait les Britanniques pour les JO. Ils ont préparé en amont et ils ont plus donné en fait.
Et ça on l'a pas assez fait.
Vous allez remarquer qu'en fait tous ceux qui ont des médailles quasiment, c'est ceux qui sont aidés souvent la plupart du temps. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de Mélina de Robert Michon. Même si elle avait fait son record pendant cette compétition, elle aurait même pas été médaillée. Donc en l'occurrence, même si elle a flopé. Ça fait pas partie des athlètes.
Oui, mais elle fait
12 ou 13.
Elle est dernière de la finale.
Oui, elle passe totalement à côté, bien sûr.
Rien que pour la photo,
on attend des athlètes, bien sûr, qui se surpassent pendant les jeux. Ça, c'est évident. Et
je parle même pas tant de médailles, moi. C'est que de présence en finale, tu vois, mettre du bleu, blanc, rouge un peu dans les courses ou les concours.
Comme disait Romain, on a eu plus de points, donc il y a eu plus de finalistes malgré tout. C'est ça le pire.
Oui. Ça c'est bien, mais ça accroche pas les podiums. Moi, je vais vous raconter une histoire vraie. Hein, sans citer de nom parce que ça sert à rien. Un passionné d'athlé, qui est un de mes meilleurs copains, pose la question à un entraîneur qui est un de ses copains. Bon, et le fameux entraîneur entraîne une athlète, une seule. Voilà. Donc, et il lui pose la question. Tu fais quoi de tes journées? Je vais l'entraîner le matin. À partir de quelle heure? 10 heures. Combien de temps? 1h30, ok. Mmh. Et puis après le soir. Et tu fais quoi? On fait un entraînement d'1h30, etc. Et entre deux, tu fais quoi? Ça ronronne. Voilà, c'est ça en fait. Si on veut symboliser ce qui se passe dans le monde de l'athlé aujourd'hui, c'est ça. Voilà, on a des gens qui sont là pour pousser les athlètes, pour les entraîner, etc. Et en réalité, qui sont j'adore les.
Mais confirme ça,
qui travaillent pas, quoi. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Ça travaille pas assez.
C'est relié à ce que tu disais tout à l'heure, David, en fait. Alors moi, je pense pas que ça travaille pas assez. C'est chacun être de son côté, en fait. C'est surtout ça le truc. Il y a beaucoup de sport dans le sport.
Le résultat, c'est que ça travaille pas assez.
Et donc, chacun a son coach perso, chacun décide de ce qu'il fait. Il n'y a pas de concertation, ça c'est clair. Alors avec à l'époque de Gianni Yalouz, justement, il y avait un peu plus de préoccupations générales. On commençait à s'inquiéter de la fiscalité des athlètes, de leur prépa mentale. Et aujourd'hui, en fait, ça s'est perdu. Ça s'est perdu à nouveau et c'est en grande partie pour ça qu'à mon avis, ça n'a pas réussi. Il faudrait plus de professionnalisation et pas qu'au niveau financier. Ouais. Donc voilà.
On a entendu d'ailleurs Zézé, qui est un des sprinteurs français, qui disait qu'il ne pouvait pas aller à l'INSEP en raison d'une question d'âge. Il avait été refusé. Ça, c'était sur RMC.
Jimmy Vico ne pouvait pas s'entraîner non plus aux horaires normaux. Il a fallu qu'il en plein sprint quasiment heurte une jeune fille qui était elle dans le club. Donc à l'INSEP, il y a des horaires de club le soir. Il était obligé d'être dans ces horaires-là.
Ah ouais.
Il a fallu que le patron de l'INSEP le voit cet accident devant ses yeux pour lui dire mais c'est hors de question en fait. Qu'est-ce que tu fous là? Va t'entraîner avec les sportifs de haut niveau. Ouais. Non, ma Fédé veut pas. Voilà, il y a plein de choses en fait qui se passent. Alors je veux pas cracher du tout sur la Fédé. Je parle simplement de les choses sont faites vraiment individuellement. Ouais. C'est un peu le problème. Donc ceux qui ont cartonné, à l'image de Clément Duclos par exemple, Ducos. Ils sont partis aux États-Unis s'entraîner. Sirena est partie aux États-Unis. Voilà, c'est l'école américaine. C'est ça, malheureusement, qui fonctionne.
Ouais, c'est terrible.
Un mec comme Kevin Mayer, aujourd'hui, il est peut-être blessé aussi parce que, il a décidé de faire ses choix de son propre chef et malheureusement, qu'il paye pas aujourd'hui avec toutes ses blessures. Et on les laisse un petit peu trop, peut-être, on laisse un peu trop de lest.
Alors, c'est possible. Justement, on vous a posé la question à vous aussi au 32-16 et Kevin nous rejoint pour parler de ce débat passionnant sur l'athlétisme français. Il y a plein de choses à dire, évidemment. Est-ce que c'est le plus gros flop pour les Français, Kevin? Salut.
Salut les grandes gueules. Salut, ouais, Kevin. débat très intéressant sur l'amont et sur ce qu'il aurait fallu faire. En effet, moi, pour avoir discuté pas mal avec des personnes qui s'occupent de l'athlée, je pense que c'est le problème que chacun fasse dans son coin, et je pense qu'il faudrait peut-être avoir un pôle au niveau de l'INSEP. On voit que ça fonctionne sur d'autres sports, pour créer aussi une émulation et que les athlètes français puissent se confronter, bah, finalement au quotidien à l'entraînement. Moi, ce que je voulais dire quand on zoome un petit peu plus sur les Jeux Olympiques, c'est le manque d'ambition en fait que j'ai trouvé chez certains athlètes. David en a un petit peu parlé, qui finalement arrivaient, ne faisaient pas leur meilleure performance, et puis bah, qui étaient contents d'être là. Et moi, je trouve ça un petit peu décevant, parce que quand tu arrives aux Jeux Olympiques de Paris, bah, c'est pour performer. Alors peut-être à ton niveau, peut-être que pour certains c'était à viser une demi-finale, c'était viser juste une finale, mais d'aller chercher la meilleure performance possible. Et puis l'autre chose, moi, mon gros regret en fait, et pourtant on peut pas lui jeter la pierre sur sa performance, c'est Alice Finot sur le 3000 steeple, qui fait une course en termes de chrono fabuleuse. Si je dis pas de bêtises, elle doit battre le record d'Europe.
Ouais, record d'Europe, ouais.
Mais qui a fait une course où en fait elle est partie, elle s'est laissée décrocher au départ parce qu'elle était partie sur un schéma de course au chrono et avec une remontée fabuleuse derrière, mais qui suffit pas. Et je pense que ce qui a été un peu oublié dans la préparation de la course avec son entraîneur, c'est le côté psychologique finalement d'une course. C'est que c'est pas un contre-la-montre, c'est une course d'athlée. Et c'est bien que Pierre Ambroise soit là, mais quand Pierre Ambroise gagne son titre de champion du monde sur 800 mètres, il y a un moment donné, quand il part à 500 mètres, il rentre dans la tête des adversaires. Et on voit la tronche des mecs derrière qui fait « Mais qu'est-ce qu'il fait ce mec ? Il est fou, quoi !» Et à ce moment-là, il y a une bascule psychologique. Et là, qu'est-ce qu'il... Enfin, je ne sais pas si elle n'a pas des regrets. J'aimerais bien qu'elle ait une interview d'elle dans les semaines à venir.
C'est qu'elle n'en a pas. C'est ça le problème d'Alice Finot, c'est qu'elle garde sa montre pendant la course et elle le confirme aux interviews qu'elle est contente de l'avoir fait et qu'elle a aucun regret sur sa stratégie de course. C'est-à-dire qu'à aucun moment elle aurait cherché la médaille avec une autre stratégie.
Peut-être qu'en chrono, elle aurait pas fait mieux. Peut-être qu'en effet, la stratégie de course qu'elle a suivie, c'était la meilleure au niveau physiologique pour faire un bon chrono. Mais qu'est-ce qui dit qu'à un moment donné, t'as pas une des trois devant qui dans la tête, en fait, se crispe, dégouille, c'est-à-dire, putain, merde, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là, la française, et qui, du coup, fait une performance moindre. Et je trouve que c'est ce paramètre-là qui a été oublié par certains de nos athlètes. Et c'est dommage. C'est dommage d'être centré que sur le chrono et pas sur ce rapport de force et ce rapport psychologique, notamment sur le fond et demi-fond.
Bah, Kevin, merci, hein, c'était très intéressant d'intervenir. Merci beaucoup d'avoir rejoint les grandes gueules du sport pour parler de ce débat sur l'athlétisme. Est-il le plus gros flop de ces Jeux? Je vous cite quand même certains. Toi, tu as parlé de handball, Walid. C'est vrai que c'est un flop, mais il y en a certains qui parlent du fiasco de la gym. On parle aussi du cyclisme de vitesse. On parle aussi de l'aviron. On avait aussi beaucoup d'attentes. Donc, il y a des sports comme ça qui, normalement, sont pourvoyeurs de médailles pour la France et plus que l'athlète. Qui ont fait un gros flop.
Oui, mais on en revient toujours. Tu sais à quel concept la force de l'émetteur. L'athlétisme, c'est quand même la discipline reine des Jeux Olympiques. Donc forcément, t'as les yeux beaucoup plus rivés sur le Stade de France que sur le bassin d'Aviron, même si historiquement en Aviron.
Moi, c'était plus par rapport à mes attentes d'avant compétition.
Oui, David, tu voulais rajouter quelque chose.
Ce qu'on peut constater comme dénominateur commun sur toutes ces fédérations dans lesquelles il y a eu des flops, c'est des problèmes fédéraux. Voilà, des problèmes d'organisation, des problèmes de philosophie, des problèmes de comportement, de rapport humain, etc. Voilà, c'est pas. On pourrait se dire il n'y a pas de solution. Ça, on pourrait se le dire, mais c'est pas vrai. Il y a des solutions. Il faut juste qu'on les mette en place. Et c'est bon. Il faut plus de moyens, certainement. Il faut plus d'infrastructures, ça c'est certain. Mais il faut plus d'organisation. Et je trouve que ce qui se passe entre nos exécutifs respectifs, que ce soit le CNO, le ministère des Sports, l'ANS et même l'État, on pourrait dire ça comme ça, et ben qui est plus d'exigence, qu'on monte le niveau d'exigence pour que les gens qui soient en place, quel que soit leur poste, quel que soit leur grade au sein des fédérations, se mettent à travailler, se mettent à se bouger, se mettent à se remettre en question et pas passent leur temps dans les endroits où on mange des petits fours et on se tape sur le ventre, quoi. À un moment donné, faut y aller, quoi. parce qu'à un moment donné, ça va, quoi. Oui. Non, mais il faut dire les choses.
Non, mais tu dis ce matin, et t'as raison.
Ouais, ben je le dis. Il y a des endroits, et la preuve par les résultats, où ça ronronne. Et je ne jette pas la faute sur les athlètes. Hein. Franchement, les athlètes, on les accuse toujours, on leur met toujours tout sous le dos. C'est pas vrai. Si ils en sont à ce niveau-là, c'est la faute de ceux qui les managent. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net. Eux, ils ont des potentiels, ils ont des qualités. Ils sont pas moins que les Américains, ils sont pas moins que les Jamaïcains, etc., etc. Faut simplement aller chercher le trésor qu'ils ont en eux. Et il n'y a pas de chercheur d'or. On n'a pas de chercheur d'or dans ces fédérations-là. Il faut révolutionner tout ça.
On s'était quand même suffisamment gargarisé, et à juste titre, après les championnats d'Europe de Rome, quand même.
Réussi pour les Français.
Bah, plus que ça, c'est un euphémisme, réussi. Mais force est de constater que quand il n'y a pas les Jamaïcains, toutes les îles des Caraïbes, les Américains, et là, on rappelle qu'il n'y avait quand même pas les Russes, on touche plus une bille. Donc, les Africains, pour tout ce qui est de l'islam et tout, là, tout d'un coup, on n'est plus invité, on n'existe plus.
Alors, il y en a un qui a gagné. Ce qui est comparable, il y a la planète entière qui fait de l'athlète aussi. C'est...
Bien sûr, tu as raison. Il y en a qui a gagné
aujourd'hui. Mais c'est pareil pour tout le monde.
Non, c'est pas pareil pour tout le monde du tout.
En rugby, en handball, c'est plus calme, David.
La planète ne fait pas tout.
Mais bon, je suis un plus ou moins d'accord avec toi sur le management. Après, bon, il y a des... Voilà, que les coachs perso, par contre, faut pas les comparer aux managers.
Si on commence à se chercher des excuses, on n'y arrivera jamais. Voilà, il faut mettre la manette des gaz à fond, à 100%, et y aller. Et aujourd'hui, la manette des gaz, elle est sur l'enculoir.
On aura l'occasion de reparler de ce débat, mais il y a un vainqueur aujourd'hui, c'est Walid. Walid, t'as gagné 1% dans le sondage.
Ah, d'accord. Fétis, bravo,
le plus grand top de ces jeux.
Juste
19%. Il a réduit l'écart. 81% pour la team Win. Mais c'est une victoire.
Merci
Toutes
François.
Les victoires sont bonnes à prendre.
Merci
Walid.
François. Bravo. Merci à ce pourcentage.
Bravo de t'être battu comme tu l'as fait. Les GG qui reviennent dans un instant avec la punchline. Elle est signée Carlos Alcaraz, le tennisman espagnol. Très en colère, vous allez l'entendre, après son élimination par Gaël Monfils à Cincinnati. Restez avec nous. On revient dans moins de 2 minutes. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h39, merci d'écouter les grandes gueules du sport sur RMC. David Douillet, Simon Dutin, Walid Acherchour, Pierre Ambroise bossent ce matin. Dans un instant, ça sera un retour du zapping des GG avec le Tour de France Femmes qui se termine aujourd'hui. On ira sur les routes du Tour, retrouver Maria Azé qui a suivi ça pour nous toute la semaine. Mais d'abord, c'est l'heure, comme d'habitude, de la punchline GG, et elle est signée aujourd'hui Carlos Alcaraz. Écoutez.
RMC, la punchline GG.
I felt like it was the worst match that I ever played on my career.
J'ai l'impression que c'était le pire match de ma carrière. Je ne pouvais pas jouer, je n'y arrivais pas. Sur ce court, j'avais l'impression que c'était un autre sport. Les balles étaient plus rapides, elles rebondissaient plus. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'avais jamais ressenti ça avant, car j'arrive à garder le contrôle de mes émotions, mais pas aujourd'hui. Je sentais que ma raquette allait y passer, parce que je ne contrôlais rien, que je jouais à peine au tennis. C'était tellement frustrant que je ne voulais même plus être sur le court. Parfois, certains perdent leur contrôle. Cette fois, c'était moi, c'était impossible de gagner ce match.
Carlos Alcaraz, hier, juste après son élimination en 16e de finale du tournoi de Cincinnati face à Gaël Monfils, un match où on a vu l'Espagnol très très agacé au point de fracasser sa raquette sur le sol. Vous avez sans doute vu cette image à plusieurs reprises, la raquette, on n'aurait pas voulu être à sa place. D'où cette question, les grandes gueules du sport. Un grand champion doit-il absolument savoir contrôler ses émotions? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
David Douillet.
Oui.
Walid Acherchour.
Oui.
Pierre-Ambroise Boss.
Devrait, mais devoir, non.
Non. Ok, on a un 2-2. On va t'écouter, Pierre-Ambroise. Pourquoi tu dis il devrait, mais il doit pas? C'est quoi
il devrait parce qu'il se sentirait beaucoup mieux. Hein. On parle du tennis, donc je sais qu'Alcaraz, son jeu, il le calque un peu à la Federer. C'est dans le Big Four, c'est un peu lui son référentiel, on va dire. Eh bien, Federer, justement, dans ses années jeunes, il était c'était assez compliqué pour lui de se maîtriser, et il a réussi à le faire. Ça lui a très bien réussi. Il a fait une magnifique carrière. Un mec comme Djoko, il a encore du mal de temps en temps à contrôler ses émotions. Il est pas apprécié du public. Voilà, c'est quelqu'un de clivant. Et je pense que du coup, il en paye les conséquences parfois dans certains matchs et certains matchs décisifs.
Ça le nourrit, ça justement.
Ben, ça le nourrit, ça c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit au grand public. Mais je suis pas convaincu que la haine soit un bon moteur pour devenir un grand champion et pour pérenniser. Pourtant, les stats montrent que c'est Djoko, celui qui a le plus de grands chelems et compagnie. Donc c'est sûr que c'est un jeune joueur. Il va devoir, à mon avis, avoir plus de sang-froid s'il veut gagner plus de grands chelems. Mais bon, jusqu'à présent, ça lui a réussi. Hein.
Alors effectivement, on peut rester sur le tennis, on peut aussi élargir. Hein, grand champion, est-ce qu'il faut savoir contrôler ses émotions? C'est vrai que l'exemple de Federer, il est parlant parce que c'était quelqu'un qui était assez foufou sur un terrain à ses débuts.
Hein. Au début, ah oui.
À ses débuts. Puis il a réussi à se calmer, Walid.
Non, moi je trouve qu'il a le droit. À un moment donné, c'est pas commun de la part d'Alcaraz. Il le fait très très rarement. Là, il a entre guillemets pété les plombs sur ce match contre Gaël Monfils où il a dit que à la fin du match c'était le pire match de sa carrière. Ça peut lui redonner une dynamique. Après, moi je pense que c'est surtout le match contre Djoko en finale des Jeux Olympiques qui lui reste encore en travers de la gorge parce qu'il était vraiment très très proche de faire un triplé Wimbledon, Roland-Garros, Jeux Olympiques et à son âge, bah, ça aurait été historique. Et derrière, peut-être cette frustration de cette finale plus son niveau de jeu au premier tour de Cincinnati a fait que il est un peu sorti de ses gonds. Donc moi je trouve que c'est pas négatif. Carlos Alcaraz, on va le retrouver à l'US Open et ce sera extraordinaire. Mais c'est bien de montrer qu'il est humain, que c'est pas un robot, qu'il a des émotions.
Ah bah tu vas dans le sens de Simon alors.
Moi j'ai dit oui. De toute façon tu me connais, je vais pas te dire l'inverse. Et alors on part du tennis, en effet on peut élargir, mais pour rester sur le tennis, moi je vais te citer Jimmy Connors, John McEnroe, Marcelo Rios, Ivan Isevich, Vilas, Gerulaitis, Safin.
Ouais, bah Safin il aurait peut-être fait une meilleure carrière. Bah,
hein, justement, j'allais te dire, ok, ils en ont laissé en route ces mecs-là. Ils auraient pu garnir un petit peu plus la cheminée de trophées. D'accord, mais qu'est-ce qui te reste au fond? Qu'est-ce qui reste de ta carrière? Tous ces mecs-là, c'est des légendes. Pour les amateurs de tennis, c'est des légendes. Ils ont laissé leurs traces, leurs pattes dans l'histoire de leur sport. Et qu'est-ce qu'on demande justement, moi, à Alcaraz? Bon, bah, ok, il est fabuleux. C'est tout sauf le stéréotype qu'on aurait pu penser au départ. Tu sais, de l'Espagnol qui renvoie la balle, qui la griffe, tu sais, qui est avec son lift insupportable. Non, il a une vraie main, il a tous les coups du tennis, c'est vraiment un génie. Donc au-delà de ça, de ce stéréotype, t'as quand même le côté, j'arrive, je rince tout le monde, je suis imbattable, je gagne à Wimbledon, je gagne à Roland, je viens, j'écrase tout. Bon, avec ce côté, je suis content, bah oui, j'adore le tennis, me confronter au meilleur, le discours un peu, tu sais, un peu fadasse. Bon, et ben justement, le gars, moi j'ai adoré voir ça. Quoi? Il a débranché Alcaraz, il a tout cassé et tout. Ben génial, ça le rend justement humain d'une part. Alors et Walid de le rappeler, moi en finale contre Djoko, je me disais mon Djoko, à mon avis l'histoire elle va s'arrêter là. J'ai été absolument ravi que Djoko réussisse à le battre, tu sais, qu'en mode le dernier sursaut quoi, tu vois, c'est peut-être la dernière fois qu'il réussira à le battre sur ce terrain-là, heureusement qu'il y avait 2-7. Bon, moi j'ai trouvé ça fabuleux. Que ce gars-là, il te montre qu'en fait, il peut fendre l'armure, qu'il peut péter un câble et justement être complètement fou contre lui-même. Alors, et il faut pas en rien enlever non plus à la performance de la Monf. Hein,
on en a parlé hier avec Marion Bartoli, notamment. Bien sûr.
Mais ouais, ça le rend.
Mais ça c'est parce que je pense que David va te dire.
Je pense pas que c'est ça qui va l'empêcher de reprendre sa route, sa marche victorieuse et de continuer à rouler sur quasiment tout le monde.
David va te dire, tu n'es pas un champion, Simon.
C'est pour merci pour l'évidence, mon cher David.
Non, c'est pas.
Je t'ai rien dit.
Tu vas pas lui dire ça? Si, tu vas lui dire ça.
Non, je vais pas lui dire ça. Pas du tout. Je me permettrai pas parce que justement, je reviens sur ce que tu viens de développer, Simon. Tu as cité des gens, on va dire à caractère fort, qui laissaient échapper des émotions et qui arrivaient à gagner, à surmonter, etc., et qui prodiguaient un spectacle qui les humanisait, etc. Mais je pense que tu te trompes parce que le champ émotionnel, il est vaste et quelquefois et souvent, je vais prendre l'exemple de McEnroe, parce qu'il sait parfaitement comment il fonctionne, lui permettait d'utiliser un morceau émotionnel de sa personnalité pour justement recentrer l'attention maximum pour les instants décisifs de son jeu. Et c'est un mode de fonctionnement, en fait. Et en réalité, c'est le contraire de la non-maîtrise. Des gens comme ça sont en capacité, même si extérieurement, tu vois des explosions de tous ordres, etc., etc., en réalité, c'est un ingrédient essentiel à leur performance. Ils ne pouvaient que surperformer que dans des états qui étaient ceux qui le construisaient et provoquaient. Moi, j'ai connu d'autres champions, notamment dans le monde du judo. Un garçon comme Jamel Bourras, qui a été champion olympique en 96 à Atlanta, il avait besoin dans sa préparation d'être dans une situation très particulière pour donner le meilleur de lui-même, et il fallait puiser là-dedans. Chacun, en fait, il y a pas de stéréotype.
Chacun donc, tu dis recette... qu'en fait Alcaraz, c'est lui en revanche, c'est pas dans son ADN, et que du coup lui ça va le desservir plutôt que certains qui s'en servent.
Je dis qu'Alcaraz, il est jeune et qu'il est en train de se comprendre et de s'apprendre, voilà, et que il va tirer les enseignements de ce qui lui est arrivé, cette non maîtrise de ses émotions, pour encore mieux les maîtriser plus tard. C'est pas parce que t'es obligé pour gagner d'avoir une totale maîtrise de ta personnalité, voilà, et de toutes tes émotions. Si jamais tu n'es plus en maîtrise de tes émotions, et je dis pas qu'il faut pas que tu en aies, hein, eh ben tu n'es plus capable de focusser pour gagner.
Voilà. Après, je pense David, sur un premier tour Cincinnati, dans la saison, on va dire que faut pas que ça se répète, mais si ça arrive qu'une fois, c'est pas si grave non plus.
Après, exactement.
Je peux comprendre ton avis si ça commence à se répéter et qu'on a Alcaraz un peu foufou sur une demi de Grand Chelem ou sur une finale de Grand Chelem. Oui, je pense qu'il peut faire de l'influx, mais
ça sera jamais un grand joueur. C'est-à-dire que aujourd'hui, les grands joueurs, quelles que soient les disciplines, etc., sont des gens qui se connaissent parfaitement, et c'est ça en fait la maîtrise totale. Et bien sûr qu'on a tous des émotions, etc. Mais c'est cette maîtrise des émotions qui te permet, tu peux les utiliser ou pas, tu peux les ranger ou pas. Federer était quelqu'un qui était capable de les ranger, qui en avait pas forcément besoin. D'autres en ont besoin pour aller superformer. Et chacun a sa recette. Donc chacun fait son mode d'emploi, il a son mode d'emploi personnel qui fait que, mais ne vous trompez pas, tous les grands champions maîtrisent tout, maîtrisent toutes leurs émotions. Après, ceux qui n'arrivent pas à le faire ne le deviennent jamais.
Là où il a raison, David, c'est que Federer, Djokovic, Nadal, même Alcaraz, quand il gagne, etc., c'est avec un self-control incroyable.
Surtout dans ce sport-là. Ouais.
Un Kyrgios, un Benoît Paire, tous ces joueurs, même un Medvedev qui a déjà gagné un grand chelem, mais quand il sort de son tennis, quand il est énervé, quand il l'invective le public à plusieurs reprises, ça fonctionne pas sur la durée.
Surtout dans le tennis, effectivement.
Mais tu verras que pour d'autres, ça peut fonctionner. Ouais. Parce qu'ils en ont besoin, tu vois. C'est très complexe.
Et c'est le cas notamment de Simon Dutin qui a besoin de ça dans les grandes gueules du sport. Ça, c'est voilà. C'est
de quoi de m'énerver, tu vois. Ça dépend. Ça dépend des questions. Ça dépend des lancements. Ça dépend de l'accueil que tu me réserves.
Ah oui, l'accueil est toujours bon. Tu sais pourquoi. Les grandes gueules qui reviennent dans un instant. On va faire un nouveau zapping avec des Françaises qui brillent sur le Tour de France Femmes. C'est la dernière étape aujourd'hui. On va aller retrouver Maria Azé sur les routes du Tour. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
On est de retour dans les grandes gueules du sport. Je recommence. On est de retour dans les grandes gueules du sport. Il fallait que ça arrive. 10h52. Pierre-Ambroise Boss, Simon Dutin, Walid Acherchour, David Douillet. Dans un instant, les GG vont passer la seconde. On ira à Madrid. Tiens, avant l'entrée en piste de Kylian Mbappé en Liga avec le Real Madrid, c'est ce soir. Est-ce que l'attaquant français peut devenir encore plus fort à Madrid? On vous attend au 32-16. Ça sera dans 15 minutes. Mais d'abord, c'est l'heure d'un nouveau zapping.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Et on va donc parler de ces Françaises qui continuent de briller sur le Tour de France Femmes. On s'en fout pas. Pierre-Ambroise Boss.
On s'en fout pas.
Walid Acherchour.
Moi, ça m'intéresse.
N'aie pas peur.
Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, donc je veux dire, je m'en fous.
À chaque fois, il n'ose pas. David Douillet.
Moi, j'adore.
Simon Dutin, tout en François, évidemment. T'as proposé un débat qu'on fera peut-être tout à l'heure. Après la victoire de Cédrine Kerbaol, une Française, Maëva Skiban, a terminé deuxième hier de l'étape qui arrivait au Grand Bornand. Evita Music a terminé cinquième. Juliette Labousse, huitième. Au classement général, Cédrine Kerbaol est désormais troisième à 37 secondes de la maillot jaune Katarzyna Niewiadoma. Juliette Labousse, elle, a grignoté et elle est désormais à une minute. On trouve Maria Azé qui est sur place. Salut Maria.
Salut tout le monde.
Salut Maria.
Et oui,
salut,
c'est
Maria.
Déjà la fin de ce Tour de France femme. Est-ce que, au-delà des performances françaises, l'ambiance était au rendez-vous, toi qui as suivi ça de près?
Ouais, vous allez sûrement l'entendre. C'était une ambiance digne des hommes. Un peu, on a senti aussi cette ambiance post-JO encore sur les routes du Tour. Beaucoup de frites, vous savez, c'est les mascottes des Jeux, de maillot France, de drapeau français. Voilà, il y avait encore une atmosphère olympique sur ce Tour de France femmes. Et justement, la patronne du Tour de France, Marion Rousse, est très satisfaite de sa troisième édition.
Évidemment que je suis ravie. Tous les jours, on a un scénario de course dingue. Et puis moi, qui suis au bord de la voiture, je peux vous dire qu'il y a énormément de monde. C'est la première année où on voit vraiment aucune différence avec le Tour de France chez les hommes. Donc c'est génial. En trois éditions, on voit vraiment qu'on est rentré dans le quotidien des gens et on continue à travailler dur parce que les femmes ont montré qu'à la pédale, eh bien, elles répondaient présentes et que ça valait le coup.
Donc en plus, il y a eu de quoi vibrer, tu le disais François, avec la première victoire française sur le Tour de France femme avec la Bretonne Cédrine Kerbol. Alors on le sait, en France, pour réunir les foules, il faut des performances françaises et il y a trois françaises dans le top 10 de ce Tour de France femme. Donc on peut dire que c'est une très belle performance. Kerbol, troisième. Labousse, qu'on va suivre aujourd'hui dans la montagne, quatrième à 1-0-1 de Nevadoma. Et Vital Music, pas enterré non plus, de 9e à 1-25. Et on sait que la coureuse de la FDJ Suez, elle aime la montagne. Et bien sûr, ne pas oublier non plus la reine néerlandaise Demi Vollering qui a chuté lors de la cinquième étape mais qui s'est relevée et qui a même accéléré hier à l'arrivée au Grand Bornand. Donc on connaît sa force dans les hautes montagnes et je pense qu'il va falloir se méfier d'elle cet après-midi. Alors cet après-midi, c'est l'étape la plus dure que le Tour de France femme n'ait jamais connue, c'est ce que nous disait Marion Rousse, avec notamment le col du Glandon et l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez. En plus, il prévoit de la pluie, donc voilà, je pense que c'est une étape à ne pas manquer.
Alors le Tour de France femme, merci beaucoup Marie, on va suivre ça sur RMC. Comme Simon, j'ai l'impression que ton débat ne va pas gagner, t'as le droit de parler.
Ah bon, bah écoute,
voilà, je te dirai ça tout à l'heure, mais voilà.
Ça n'intéresse pas à grand
monde. Bah si, nous, ça nous passionne sur RMC.
Je trouve, alors moi, je vais tout à fait transparent. Moi, depuis gamin, je suis le Tour de France. RMC nous donne, tous les deux, François, l'occasion de bosser un petit peu dessus tour, depuis ouais, plusieurs sûr. Années.
Et vous le faites très bien.
On adore.
Merci Walid.
Merci Walid. Et en tout cas, on se régale.
Je sais pas si nous a écouté une fois.
On se régale à le faire. Mais j'avais accueilli le retour, l'énième retour du Tour de France femme avec un petit peu de scepticisme, je dois l'avouer. Grâce à Maria, on l'a entendu, on avait Marion Rousse hier dans l'Intégral Sport. On aura le boss du Tour de France homme, tiens, à 13h, Christian Prudhomme, qui sera mon invité à 13h. Et je dois l'avouer, j'ai posé mon genou à terre, j'ai mangé mon chapeau, je me régale devant cette course qui n'a rien à envier à celle des hommes. On rappelle que c'est sur un format beaucoup plus ramassé puisque donc 8 étapes seulement. Qu'est-ce que tu veux demander de plus aujourd'hui? On a, Maria le rappelait, la patronne d'Amy Vollering qui paraissait imbattable avant le début de ce tour. Bon, suite à une chute, elle a lâché le maillot jaune. Elle est à 1,15 d'une Polonaise que j'ai appris à découvrir, mais qui lui tient tête, Nebia Doma, qui a l'air très très dur à battre. Ok, il y a les Françaises, je suis pas certain qu'elles soient en mesure d'aller gagner, parce qu'on rappelle, c'est terminé ce soir à l'arrivée à l'Alpe d'Huez, on connaîtra la vainqueur. Mais je trouve que c'est formidable, il y a du spectacle, il y a une densité entre les coureuses qui s'est vraiment épaissie, quoi, un nivellement, quoi, des écarts qui rend la course et le suspense absolument passionnant. Donc bravo Marion Rousse, bravo à ESO, bravo à tout ça et au développement de ce cyclisme féminin qui vraiment donne un spectacle exceptionnel.
On en parlait un peu hier aussi, David, effectivement, c'est ce que tu disais, le sport féminin a besoin de toutes ces performances-là aussi.
Bien sûr. Non, mais c'est évident. Mais enfin, Simon a tout dit. Franchement, il y a de la dramaturgie, il y a du talent, il y a des taulières, il y a du panache, il y a du suspense, etc. Enfin, il y a des beaux parcours aussi. C'est bien organisé. Enfin, bon, moi, je m'éclate. Hein. Ouais. Très franchement, je prends le même pied en regardant les femmes que les hommes. Quoi, c'est voilà, tout est là. Quoi. Et encore une fois, je le redis, je le re-redis. Le sport féminin au global a besoin de se démocratiser dans le monde entier. C'est l'avenir du sport mondial. Voilà, c'est clair, c'est net. Et moi, j'adore regarder ce type d'événements. C'est évident.
Et tout petit,
pas si on a convaincu Walid.
Le petit argument supplémentaire, c'est que au-delà de du suspense machin, moi je peux comprendre. Il y a des gens qui aiment pas le cyclisme masculin, ils vont pas se mettre à aimer le cyclisme féminin. Mais le petit argument, je pense, qui contribue à faire émerger encore une fois et à créer l'événement, c'est que au-delà des performances, il y a ce qui s'apparente à le début d'un narratif
en dehors du vélo également. Parce que Vollering,
ouais,
elle chute.
Histoires,
elle chute il y a deux jours. Tu sens qu'elle est vexée. Ouais, elle perd son maillot jaune. Et, ça, elle dit, et grosso modo, elle dit, il va pas falloir venir m'emmerder demain. Mmh. Je conseille à mes concurrents de pas s'approcher. Mmh. Et tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a évidemment, voilà, des
on a besoin, bien sûr, de tout
comme
ça.
Comme chez les hommes, des rivalités en dehors, voilà, dans les coulisses. Et je pense que les gens, pour s'intéresser à ça, ils ont aussi besoin de se nourrir.
Bon, t'as tout dit. Alors, Pierre Ambroise, on n'a plus le temps, mais t'as le droit à un mot.
Non, mais chaque édition est différente. Pourquoi ce serait pas la même chose? Voilà, il y a des épopées chez les hommes et chez les femmes. Et on va les créé avec les nouvelles éditions, c'est comme ça que ça
et
fonctionne.
Et Walid va regarder, effectivement. T'as été convaincu?
Non, mais pourquoi pas, après moi je...
T'as pas le droit de parler. Okay. C'est le principe. Allez, on revient dans un instant. Oui, c'est vrai, je suis pas sympa, je te
moi,
lance.
Moi, je suis pas un grand fan de cyclisme à la base.
D'accord,
c'est pour ça. De...
Ok. On remercie Maria qui va suivre la dernière étape. Merci beaucoup Maria et bon Tour de France à toi. Tu nous as fait vibrer aussi sur RMC. On va te suivre aujourd'hui pour cette dernière étape. On va parler de Kylian Mbappé à Madrid dans un instant. Est-ce qu'il peut devenir plus fort avec le maillot du Real Madrid? C'est tout de suite sur RMC, restez avec nous.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.